Merci, bonsoir. Et donc, avant que nous soyons invités à rejoindre tous ensemble l'un des berceaux du cinéma, je vais vous parler un petit peu de littérature, de façon presque un peu paradoxale, puisque le terme de ressource n'est guère employé en littérature, et lorsqu'il l'est, il désigne plutôt pour le chercheur un ensemble de matériaux, d'informations de diverses natures, de documents susceptibles d'éclairer pour lui le contexte d'élaboration d'une œuvre, le trajet d'un écrivain ou la constitution d'un regroupement esthétique. Ce n'est pas du tout de cela dont je veux parler, mais en déplaçant la question, en faisant porter non pas sur la critique de la littérature, mais sur la littérature elle-même, telle qu'elle s'écrit, et en prenant finalement au pied de la lettre les divers sens du mot « ressource » qui nous était rappelé dans l'appel du colloque, j'aurais traité d'un phénomène majeur de la création littéraire de ces 30 dernières années, qui en relance à la fois les enjeux éthiques, les fonctions sociales et les pratiques esthétiques. Et à cet égard, en effet, le terme de « ressource », cette fois, convient parfaitement à décrire les mutations de grande ampleur qui caractérisent cette discipline artistique depuis le tournant des années 75-84, et surtout il nous permet de comprendre les nouvelles pratiques qui la fondent et qui contribuent à la réinstaller au cœur de débats de société qu'elle avait longtemps déserté. On observe en effet depuis une trentaine d'années une résurgence de la littérature qui est encore trop peu prise en compte par le champ critique et qui est franchement ignoré par la doxa médiatique qui ne cesse de nous parler d'une fin de la littérature ou d'une disparition de la culture française. Or, cette résurgence, pour se développer, mobilise des ressources diverses qui relèvent essentiellement de deux univers hétérogènes, qui sont d'une part l'héritage littéraire lui-même, qui est revisité à nouveau frais après une période plutôt formaliste, qui pratiquait l'esthétique de la rupture et le choix de la table rase, et d'autre part, l'ensemble réflexif et conceptuel fourni par les principales sciences humaines. Alors, un petit préambule avant de développer un peu ce propos pour rappeler qu'effectivement, la période qui précède celle dont je vais vous parler, qui était une période formaliste, et s'est radicalisée des années 50 à la fin des années 70, et elle est demeurée dans l'histoire littéraire comme celle des expérimentations textuelles, de la déconstruction critique des modèles littéraires antérieurement en vigueur, et que sous l'influence de la linguistique d'une part, du structuralisme d'autre part, adossé aussi au développement puissant de la théorie littéraire, et plus généralement d'ailleurs de la French Theory, elle s'est profondément autonomisée au point de considérer qu'elle n'avait aucune légitimité à parler du monde extérieur, le référent des linguistes, et donc ne pouvoir exercer son art qu'à l'intérieur de la clôture de la sphère verbale. C'était là d'ailleurs une évolution esthétique partagée par les autres disciplines artistiques de la modernité, qui a été décrite par le spécialiste de l'art plastique américain Clément Greenberg, en soulignant à quel point les disciplines artistiques s'étaient toutes repliées sur un travail qui ne portait que sur leur médium même, et c'était le cas en littérature exactement comme en peinture. Mais en même temps, ce repliement qui a des raisons esthétiques, des raisons d'histoire de l'esthétique finalement, manifestait aussi plus tacitement peut-être une difficulté de la littérature, pointée par des penseurs comme Adorno, à affronter les traumatismes du XXe siècle. Ce fut, comme le dit une de nos collègues, Nelly Wolf, une littérature sans histoire, une littérature qui contestait l'esthétique de la représentation, la possibilité même de la représentation, de façon telle que les écrivains se sont amenés, se sont trouvés acculés, et pour certains d'entre eux de façon tout à fait volontaire d'ailleurs, à renoncer à traiter du réel, de l'histoire, des questions de société. Cette période d'autonomisation radicale, comme le montre un autre critique, membre de notre institution, William Marx, dans un livre qui s'appelle « L'adieu à la littérature », est le troisième temps d'un mouvement qui a d'abord été un mouvement d'expansion de la littérature, puis d'autonomisation avec la modernité, et finalement de dévalorisation d'elle-même et par elle-même, on pourrait dire une auto-dévalorisation de la littérature. Or, ce vaste cycle trouve sa fin, justement, dans le tournant des années 75-84, sous l'effet conjugué de deux phénomènes, l'un qui est un phénomène interne à ce mouvement de la littérature, qui, après avoir été au plus loin de ses explorations formelles, arrive, les uns diront, à un aboutissement, les autres diront à une impasse, mais en tout cas, est arrivé à une complexité telle que cela la rend relativement illisible pour un lectorat moyen, et elle s'est trouvée acculée à une sorte de perte de son lectorat. Mais c'est surtout le contexte historique et social global qui exerce alors, dans ces années-là, une pression telle que la littérature renoue avec ses enjeux délaissés. La fin des Trente Glorieuses, les problèmes de désindustrialisation, tout ce que connaît notre univers et sur lequel, je crois, il n'est pas nécessaire de s'étendre ici, créent de nouvelles souffrances sociales. Et la littérature, comme les autres arts peut-être, mais en particulier, est une caisse de résonance possible pour ces souffrances sociales, pour ces violences subies. C'est aussi la fin du siècle et c'est aussi le moment où le XXe siècle se retourne sur lui-même, interroge les traumatismes qui l'ont traversé, avec une sorte de perte de repère conséquente à ces traumatismes qui a bien été pointé par le philosophe Jean-François Lyotard dans son livre sur la condition postmoderne et qui met en évidence la fin de ce qu'il a appelé les méta-récits de légitimation, c'est-à-dire tout ce qui structurait les modes de pensée au moins de notre collectivité occidentale. C'est ainsi donc que, dans ces années 75-84, on voit les écrivains revenir au monde, se redonner des objets extérieurs à la littérature. D'intransitive, comme le disait Roland Barthes, la littérature redevient transitive. Elle se ressaisit de l'homme, elle se ressaisit du réel, des questions historiques, politiques et sociales. Mais c'est là qu'elle se trouve acculée à une difficulté certaine, c'est que la déconstruction et la critique qui ont été abondamment pratiquées par les deux ou trois décennies précédentes, ont tellement mis à mal les formes traditionnellement en usage dans la littérature pour dire chacun de ces objets, que les écrivains se trouvent dans la difficulté d'avoir à innover, à trouver une nouvelle forme pour se porter à la hauteur des enjeux qu'ils se donnent à nouveau. Ils ne peuvent reprendre des formes anciennes qui ont été délégitimées, contestées et dont on a montré les dimensions illusoires. Or, c'est là que pour pouvoir trouver les formes qui vont leur permettre de se porter à la hauteur de ces enjeux, et non pas trouver des formes pour le plaisir de trouver des formes, comme auraient pu faire les avant-gardes, ils ont besoin de mobiliser des ressources que, je dirais, d'une part endogènes, celles qui relèvent de l'héritage littéraire lui-même, qui est revisité à nouveau frais, et d'autre part, des ressources exogènes qui puisent aux sciences humaines et au matériel conceptuel que les sciences humaines peuvent mettre à la disposition, non seulement des écrivains d'ailleurs, mais de tout un chacun. Les ressources endogènes, donc, premier point que j'aborde ici, puisent à l'héritage littéraire lui-même, que les écrivains revisitent non pas pour en imiter ou en reprendre les formules telles quelles, comme c'était le cas, par exemple, des esthétiques classiques, mais pour y chercher des modalités expressives grâce auxquelles l'écriture contemporaine peut conquérir de nouvelles intensités. C'est ainsi, pour ne donner qu'un exemple de cela, qu'au réalisme dont la critique structurale avait montré la dimension extrêmement illusoire, en ce que le réalisme ne produisait que des représentations figées et des lieux communs, un écrivain comme François Bon substitue une écriture du réel qui, au lieu de reproduire, par exemple, le parler très caricatural des banlieues ou celui maladroit des individus désocialisés, n'hésite pas à mettre dans leur bouche des fragments d'Agrippa d'Aubigné ou d'autres empruntés à Sophocle, à Eschyle, au tragique grec. Cela produit un effet d'inouï qui alerte le lecteur, celui-ci n'a pas l'impression d'être en train de relire quelque chose qu'il a déjà lu tant de fois, mais qui au contraire l'amène à une attention nouvelle à ce qui lui est proposé. Ces pratiques que l'on pourrait à certains égards rapprocher des formes traditionnelles d'intertextualité ou de collage des modernes n'ont pas pour but de faire apparaître le collage comme tel, mais au contraire de fondre dans le parler ou la parlure des personnages et des figures évoquées une intensité qui provient de l'héritage littéraire, qui était une intensité d'une autre nature, mais qui a cette efficacité nouvelle. Et à cet égard, par ce travail, ce truchement d'ordre poétique, l'individu désocialisé n'est plus considéré comme un cas social répertorié et bien décrit, mais porte véritablement le tragique de la condition humaine, et le lecteur est du coup beaucoup plus amené à y trouver des résonances avec ses propres expériences. Ces emprunts de langue et de phrasé voisinent avec d'autres que l'on pourrait dire cette fois génériques. On les remarque surtout dans tout ce qui concerne l'expression du sujet. Alors, je ne parlerai pas parmi les formes d'expression du sujet. Il y en a trois qui ont été inventées véritablement par cette période littéraire. Tout simplement parce que, tout comme le réalisme avait été à certains égards rendu caduque par la critique précédente, les formes traditionnelles d'expression du sujet, à savoir le roman psychologique, si vous voulez, ou encore l'autobiographie, ont été elles-mêmes, victimes aussi des critiques qui en ont montré toutes les dimensions extrêmement superficielles, illusoires, et parfois même trompeuses. Et donc, il a fallu, là encore, inventer de nouvelles formes. La plus connue, je n'en parlerai pas justement parce qu'elle est la plus connue, c'est celle de l'autofiction, qui a fait les beaux jours de la presse et de toutes sortes de débats. Mais il y en a deux autres qui sont très intéressantes, le récit de filiation, dont je dirai un mot tout à l'heure, et les fictions biographiques. Ces fictions biographiques se comprennent dans une démarche un peu indirecte, puisque l'écrivain s'y saisit d'une figure historique avérée, à travers laquelle il interroge, en exposant cette figure, ses propres complexions psychiques, les questions qui l'intéressent, qui l'alertent ou qui l'inquiètent dans telle ou telle manifestation humaine singulière. C'est souvent des artistes, d'ailleurs, qui sont ainsi convoqués par les écrivains, qui interrogent à travers ces artistes dont ils parlent leurs propres pulsions artistiques. Eh bien, cette forme littéraire ne s'est développée qu'en puisant à une ressource très oubliée, abandonnée, qui était celle de l'hagiographie, et l'on voit réapparaître, par exemple, dans ces textes, quantité d'allusions explicites ou implicites, mais très souvent explicites, aux vies parallèles de Plutarque, aux vies des 12 Césars de Suétone, aux vies de saints collectées par Jacques de Voragine dans la Légende dorée, aux vitae des troubadours, ou même, pour plusieurs de ses écrivains, notamment Christian Garcin et surtout Pierre Michon, aux vies de peintres de Vasari. Le phénomène est d'ailleurs tellement développé qu'on le retrouve sous la plume de nombreux auteurs. On pourrait citer Claude-Louis Combet, Gérard Massé, Pascal Quignard ou encore Patrick Deville et tant d'autres. Mais on le retrouve aussi dans des collections éditoriales qui sont ouvertes justement pour accueillir ce type de création. La collection L'un et l'autre chez Gallimard ou la collection Alter Ego chez Fayard, sans parler de tous les livres de cette même nature qui paraissent chez d'autres éditeurs ou hors collection. De leur modèle hagiographique, les écrivains contemporains ne retiennent pas l'ambition de philosophie morale, qui était évidemment celle d'un Plutarque, par exemple, mais en recourant à ces modèles, ils rompent avec l'illusion positiviste d'un savoir surplombant, non pas que les fictions biographiques soient en marge des biographies historiques exhaustives, plus accueillantes à l'imagination, mais c'est, et de façon tout à fait assumée par les écrivains, la fiction que le sujet se fait de la figure de l'autre. La profusion des interventions d'auteurs dans ce type de texte, les « j'imagine que », les « je veux croire que », qui scandent les récits de Michon, par exemple, n'est pas seulement une façon contemporaine de montrer les coulisses de l'écriture, c'est aussi la marque d'une adhésion à la fiction construite, un « je veux croire que », un credo, si vous voulez. Et cela manifeste à quel point la dimension connative est ici particulièrement singulière et à quel point elle déborde la pure emprise cognitive de cette entreprise. Il ne s'agit pas de connaître véritablement ce qu'il en fut de la figure historique dont on parle, mais par tout un travail d'adhésion, d'essayer d'interroger en elle une sorte de miroir de soi-même. Elle établit aussi, cette façon de procéder, une différence entre ce qui était autrefois des modes de représentation et dont les biographies traditionnelles sont un exemple parmi d'autres, et ce qui se joue aujourd'hui sur la scène littéraire, qui relève beaucoup plus d'entreprises de figuration, c'est-à-dire qu'on se figure les personnages, les personnes avérées dont on parle. Et ces figurations sont problématisantes, c'est surtout, je crois, ce qui les rend extrêmement intéressantes. Elles ne prétendent pas, en effet, livrer la somme exhaustive d'une vie, ni même la vérité d'un individu historique, artiste, écrivain, homme politique, etc., ou même quidam, dont l'existence est interrogée, mais elles prétendent mettre cette existence en question.
Et elles le font souvent, non pas de façon justement totalisante et exhaustive, mais de façon tout à fait ponctuelle, en se saisissant de ce que Roland Barthes a appelé des biographèmes, c'est-à-dire des détails qui révèlent quelque chose d'une existence, d'une pulsion, d'une création, un moment où se décide une vie. Or, ce recours aux détails, c'est justement chez Plutarque que déjà on nous alertait à y porter attention. Plutarque qui écrit « Nous n'écrivons pas des histoires, mais des vies ». Et d'ailleurs, ce ne sont pas toujours les actions les plus éclatantes qui montrent le mieux la vertu ou le vice. Un petit fait, un mot, une plaisanterie révèlent souvent mieux un caractère que les combats sanglants, les batailles rangées ou les sièges les plus importants. Le recours à de telles ressources, délibérément ignorées et parfois même méprisées par les modernes, n'est cependant pas un déni de la modernité, car c'est au contraire bien pour tenir compte des impasses et des esthétiques de la représentation que les contemporains se ressourcent ainsi à des formes antérieures au figement du réalisme et de la pensée positiviste. Ils ne puisent à ces formes qu'en les dépouillant de leur vocation didactique, je le disais tout à l'heure, mais aussi en les maintenant dans un espace d'indécision dont les textes actuels portent de façon très nette, très évidente, la marque stylistique. Ces textes, en effet, recourent très volontiers à ce que nous appelons des figures de correction, les panorthoses, par exemple, qui inscrivent dans le texte même toute la part d'hypothèses, de conjectures qui les constituent. Or, cet affichage de l'indécision, de l'hésitation, cette écriture de la reprise, de l'incertain, provient directement de la modernité, notamment de Beckett ou de Claude Simon, qui ne cessent de reformuler dans leur texte ce dont le texte lui-même n'est jamais sûr. Ces manifestations explicites de l'insavoir, quantité de formules du type « on dit que » ou bien « à moins que », font de la littérature contemporaine une littérature de l'interrogation beaucoup plus que de l'affirmation. C'est ce en quoi le roman contemporain relève plus, me semble-t-il. Alors, quand je dis le roman contemporain, évidemment, entendez non pas la production grand public formatée qui est faite pour livrer toujours aux clients de certaines librairies et de certains éditeurs le roman qu'ils ont déjà lu, un peu comme les enfants réclament qu'on leur lise toujours la même histoire, mais cette part de la littérature qui essaye effectivement de s'affronter aux questions de notre temps. Eh bien, cette part-là relève beaucoup plus désormais d'une fiction que l'on pourrait dire herméneutique plutôt que d'une fiction narrative. Une fiction herméneutique, c'est-à-dire qui s'affronte à l'obscurité des choses et cherche à les comprendre, plutôt qu'une fiction qui croit les connaître et prétend les raconter. Je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus, mais le même phénomène dans l'écriture contemporaine de l'histoire, on revient d'ailleurs à l'histoire après l'avoir laissé un peu entre parenthèses, et l'on voit que l'écriture de l'histoire aujourd'hui n'adopte pas la forme du roman historique qui mêle de fiction le récit des événements réels, de façon chronologique et linéaire, mais adopte une forme que l'on pourrait dire archéologique, c'est-à-dire que c'est à partir d'aujourd'hui qu'on s'interroge sur des événements du passé, en faisant apparaître leur part d'obscurité et les difficultés qu'il y a à réduire cette part. On en a vu les manifestations avec divers ouvrages sur la Seconde Guerre mondiale parus ces derniers mois, qui ont, pour certains d'entre eux, d'ailleurs, donné lieu à polémique. Deuxième et dernier point, cette autre ressource qu'est, pour la littérature contemporaine, l'ensemble des sciences humaines. Car cette mutation de la littérature, qui réoriente la fiction narrative vers une fiction herméneutique, la conduit en effet à prendre en considération les disciplines qui ont charge d'étudier les objets qu'à nouveau la littérature se donne, à savoir la sociologie, l'histoire, la psychanalyse, l'anthropologie et même depuis une dizaine d'années, l'économie et le management. Les écrivains en viennent ainsi à mobiliser un autre type de ressources, de nature exogène cette fois, non pas pour inféoder la littérature à telle ou telle des théories qui sont développées par l'une ou l'autre de ces disciplines, mais un peu à la faveur de la vulgarisation d'ailleurs dont ces disciplines sont elles-mêmes l'objet, pour entrer en dialogue avec les apports et les réflexions produits par ces autres espaces de la pensée. Et il y a là, je n'ai pas le temps de développer, mais un renversement tout à fait intéressant du rapport de la littérature aux sciences humaines. dans un premier temps, qui sera en gros le début du XXe siècle, la littérature s'intéresse aux sciences humaines et a un peu tendance à illustrer ce que les sciences humaines lui proposent. On le voit avec des écrivains comme Pierre-Jean Jouve, qui illustre la psychanalyse à certains égards et qui travaille ses formes pour faire entrer son propos dans cet univers-là. Dans un deuxième temps, la littérature est comme inféodée aux grandes théories du structuralisme. Maintenant, elle est dans une démarche de dialogue. Deux exemples très rapides. L'un qu'on peut prendre à la sociologie, on voit des écrivains comme Annie Ernaux, comme Pierre Bergougnou, qui utilisent les notions d'habitus, de distinction, qui ont été avancées par les études de Pierre Bourdieu. Autre exemple, pour dire l'histoire aujourd'hui, et notamment dans ces textes qui relèvent de ce que j'ai appelé tout à l'heure les récits de filiation, on voit combien les écrivains font appel à tout le travail de la microstoria qui est développé en Italie par Ginsburg, Eduardo Grandi et Giovanni Levi, adopté en France. Un exemple de cela, que je ne fais que mentionner faute de temps, c'est ce livre que beaucoup d'entre vous connaissent, j'imagine, Dora Bruder de Modiano, où on voit bien comment, pour essayer de reconstruire l'itinéraire et la disparition de cette jeune fille raflée pendant la période de l'occupation allemande, eh bien, il doit, et je le dirais avec les termes d'Alain Corbin, qui est l'un de nos micro-historiens français, il doit tout faire pour reconstituer son horizon spatial et temporel, son cadre familial, amical, communautaire, les valeurs et les croyances auxquelles elle était probablement attachée, imaginer ses joies, ses douleurs, son inquiétude, ses rêves, etc. Pratiquer une histoire en creux, hein, exactement comme dans le travail de la microstoria. Alors, quelques éléments de conclusion, si vous voulez bien, maintenant. D'abord, pour remarquer que la littérature est, avec l'Institut universitaire de France, l'un des rares espaces où des ressources venues de différentes sciences humaines et parfois sciences dures se rassemblent. Je rappelle les réflexions de l'ethnologue Jacques Barrault qui regrettait que la spécialisation croissante des sciences et de leurs disciplines conduise à l'éclatement des savoirs scientifiques et à leur séparation. La littérature contemporaine, parce qu'elle s'alimente simultanément à ces divers savoirs, est apte à les mettre en résonance. Et on pourrait donner là plusieurs exemples que je n'ai pas le temps d'évoquer, mais qui seront dans le document écrit. Deuxièmement, la littérature contemporaine abandonne ainsi la prétention à l'autonomie qui caractérisait la modernité. Elle se nourrit du potentiel dynamique que lui offrent des ressources endogènes et exogènes, mais pour les réinterpréter à sa manière. Ce faisant, elle reconquiert une pertinence sociale, car elle se donne à nouveau les moyens de parler du vivant. Elle redevient une sorte de savoir de la vie, et on voit se développer en Allemagne, d'ailleurs, toute une réflexion critique là-dessus, autour de Ottmar Hethe, sous la formule « Literaturwissenschaft als Lebenwissenschaft », qui essaye de tirer les conséquences de cette profonde mutation de la littérature en réorientant aussi la recherche et l'enseignement qu'on lui consacre. Non plus étudier la littérature pour la littérature, mais la littérature pour ce qu'elle nous apprend. Enfin, ces derniers points de conclusion, j'ajouterais que ces nouvelles pratiques littéraires, fondées sur la mobilisation de ressources délaissées par les dernières avant-gardes, permettent à la littérature d'échapper aux apories et aux impasses de l'infigurabilité qui avait été développée par les penseurs d'après-guerre, d'Adorno à Blanchot et même aujourd'hui par Agamben, qui voit la littérature à ressasser sa propre impossibilité à se dévaloriser comme pratique sociale. Dans le dialogue fécond qu'au contraire elle entretient avec les sciences humaines, la période contemporaine, hostile à tout retour à la représentation, trouve les ressources possibles de nouvelles figurations du monde. C'est ainsi qu'après le grand oubli que nous avons vu se mettre en place dans les années 50-60, on revient au grand traumatisme du XXe siècle. On parle enfin en France, puisque c'était le cas à l'étranger, mais pas chez nous, de la guerre d'Algérie ou encore des bombes atomiques lâchées sur les populations civiles. À nouveau, la littérature donc donne à penser, non pas seulement sur ses formes et sur ses pratiques, mais sur celles mises en œuvre par la collectivité humaine. Et c'est ainsi, à son tour, me semble-t-il, qu'elle peut devenir ou redevenir une ressource non négligeable aussi pour les autres disciplines humaines et scientifiques. Je vous remercie. Merci.
Bon, bien que le temps soit largement dépassé, on peut quand même trouver une question. Si quelqu'un aurait une question sur la littérature.
Oui, bonsoir, Aurélien Barrault de Grenoble. J'ai trouvé l'exposé fascinant, mais il y a un point que j'ai mal compris, c'est la manière dont vous avez, me semble-t-il, invoqué la French Theory en général et la déconstruction en particulier comme une sorte d'exemple de dévalorisation de la littérature et de ce qui l'a conduit à se replier sur elle-même, alors qu'il me semblait que jamais peut-être la philosophie n'avait été si proche de la littérature, d'ailleurs jusqu'à parfois même se confondre avec elle. Je pense au rôle qu'a joué Joyce, Blanchot, Artaud, Jabès, Cixous ou Tselan pour Derrida. Et franchement, Tselan, on ne peut pas dire que c'est une littérature qui n'est pas ouverte sur le monde, et même quel monde, ou même l'importance de Beckett que vous avez évoquée pour Deleuze. J'aurais plutôt cru que la French Theory avait joué un rôle exactement opposé à celui que vous avez mentionné.
Alors, pour aller vite, parce que la journée avait pris un peu de retard, j'ai évoqué deux choses l'une après l'autre. D'une part, le travail de la French Theory en général, et aussi toute la période des années 50-60, où la littérature, la théorie littéraire s'est convaincue qu'elle devait s'exercer à l'intérieur de la sphère verbale et pas de manière extérieure. On le voit très bien dans les critiques qui étaient faites des œuvres de Beckett ou de Claude Simon que j'ai évoquées et que vous vous rappelez, qui étaient essentiellement des critiques formalistes de ces œuvres-là. Et j'ai évoqué en même temps ce travail de William Marx qui montre que du sein même de la littérature et de la pensée littéraire, il y avait une sorte de réflexion sur ce qu'il appelait une dévalorisation, c'est-à-dire que la littérature était vouée, comme le dit Blanchot, au neutre. C'est le moment de l'effacement de l'auteur, c'est le moment où on parle de l'illusion réaliste et de toutes ces césures finalement entre la littérature et le monde extérieur. Il y a eu ensuite dans un deuxième temps, le deuxième temps des critiques que vous évoquez, une reprise en considération de la littérature à nouveau frais, autour de Derrida effectivement, de Foucault aussi beaucoup, qui a amené à sortir de cette espèce de clôture, et c'est à partir de là que les écrivains, qui sont souvent des grands lecteurs de Foucault, d'ailleurs pour la génération actuelle, se sont ressaisis de ces objets qui avaient été délaissés. Donc voilà, c'est une question d'énoncer, je dirais, un peu trop ramassé, mais sinon vous avez tout à fait raison, bien évidemment.
Merci. Donc je pense que nous allons clore cette session, et donc la journée, nous vous remercions de votre attention jusqu'au bout.